Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'islamisme radical dans les républiques d'Asie centrale et en Russie. À l'ordre du jour ce soir, quelle place pour l'islam et l'islamisme en Russie et dans les républiques d'Asie centrale? L'attentat de vendredi dernier dans la banlieue de Moscou, qui a fait au moins 137 morts, a été revendiqué par l'État islamique au Khorassan, nom médiéval d'un territoire à cheval sur l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Après le démantèlement de l'URSS et la création de républiques d'Asie centrale, le contrôle de l'islam sur cette région par le pouvoir de Moscou a laissé la place à des pouvoirs musulmans laïcisés, mais aussi à l'influence d'un salafisme mondialisé. Le rôle de la Russie en Afghanistan auprès des talibans, mais aussi en Syrie auprès de Bachar el-Assad, a fait du pouvoir en place au Kremlin une cible de combattants de l'État islamique qui n'ont pas pour ennemis les seuls croisés de l'Occident. Comment analyser les évolutions récentes de la radicalisation islamiste dans cette région d'Asie? C'est la question que nous poserons à nos trois invités. À vous d'abord, Bayram Balchi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CERI Sciences Po, vous travaillez sur l'islam dans le Caucase et en Asie centrale. Vous avez publié Renouveau de l'islam en Asie centrale et dans le Caucase en 2017 chez CNRS Édition. Avec nous également David Gauzer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, spécialiste du terrorisme en Asie centrale, chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement et président du Centre d'observation des sociétés d'Asie centrale. Vous êtes co-auteur avec Johan Nominé du livre Le chaudron vert de l'islam, publié aux éditions de l'Harmattan en décembre 2020. Enfin, troisième invité à distance également, Cyril Brett, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et auteur du livre « 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au XXIe siècle », publié en poche en janvier dernier chez aux éditions Dunod.
Je m'adresse à vous aujourd'hui à propos de l'acte terroriste sanglant et barbare qui a fait des dizaines de victimes innocentes et pacifiques, nos compatriotes, y compris des enfants, des adolescents et des femmes. Les médecins se battent actuellement pour sauver la vie des victimes qui sont dans un état grave. J'exprime mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Avec vous, c'est tout le pays et notre peuple qui sont en deuil. Je déclare le 24 mars jour de deuil national.
Vous venez d'entendre Vladimir Poutine à la suite de l'attentat de Moscou vendredi dans la salle de concert du Crocus City Hall à côté de Moscou. Est-ce qu'on peut dire, puisque c'est la première chose qui a priori est venue aux oreilles et aux idées même de nos dirigeants occidentaux dans un premier temps, mais aussi des observateurs qui sont moins spécialisés que vous, Bayram Balchi, qu'effectivement, on a pu être surpris par ce qui s'est passé, en tout cas l'ampleur de cette attaque, le caractère extrêmement déterminé et extrêmement efficace aussi de cette attaque terroriste à Moscou, et qu'on n'avait peut-être plus l'habitude de regarder dans cet espace géographique dont on va parler pendant 40 minutes.
Oui, effectivement, je pense qu'on a été un peu tous surpris, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, l'actualité en France, en tout cas, a été très largement occupée par ce qui se passe en Ukraine, par les conflits du Moyen-Orient, et on a oublié qu'il y avait aussi ce problème-là. Et je dirais qu'on était d'autant plus surpris, en fait, que je pense que Poutine lui-même a été surpris parce qu'il est tellement focalisé sur la question ukrainienne, sur la guerre qu'il mène en Ukraine. Or, il a oublié qu'il y avait aussi cette question de la menace islamiste en Asie centrale et aussi en Russie. Et ça rappelle aussi à quel point en Asie centrale, bien que, et ça c'est un paradoxe sur lequel il faudra revenir tout à l'heure probablement, c'est que bien que ce soit des États et des sociétés et des régimes tout à fait séculiers qui ont été dominés par la Russie et l'Union soviétique.
C'est pour ça que je parlais de régime musulman laïcisé.
Voilà. Mais voilà, exactement. Et bien, malgré cela, il y a quand même un phénomène radical assez important, djihadiste. C'est probablement lié à la proximité de l'Afghanistan, au fait qu'il y avait aussi des régimes un peu autoritaires. Il y a aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est cette passion pour le fondamentalisme dans le monde musulman et même ailleurs, cette fascination qu'il y a pour l'État islamique qui a pu exister au Moyen-Orient. Tout ça fait qu'en fait, effectivement, il y a un phénomène radical assez important en Asie centrale qu'on avait oublié. Et là, je pense qu'ils ont probablement profité du fait que la Russie était tellement préoccupée, occupée, obsédée par la question ukrainienne, qu'il y aura un relâchement et probablement aussi une bonne partie de ceux qui assurent la sécurité en Russie et ailleurs, ils ont été quelque part dégarnés pour envoyer, pour être envoyés sur le front ukrainien. Et c'est aussi pour ça probablement que cette attaque qui est d'une grande ampleur et qui a fait malheureusement beaucoup de morts.
Et puis on peut dire effectivement d'ailleurs qu'il y avait des régiments qui se situaient, justement pour le régime tadjik sur la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, se protégeant d'une certaine manière, Cyril Brett, ou tentant de se protéger effectivement d'influences qui pouvaient venir d'Afghanistan et qui pouvaient mettre à mal le régime tadjik qui est soutenu par Moscou, et bien que ces régiments ont été dégarnis pour pouvoir être envoyés sur le front occidental du côté de l'Ukraine, et que tout cela a peut-être pu donner des occasions, en tout cas à des gens qui avaient l'intention de mener des opérations en Russie ou sur le territoire tadjik, d'agir.
Oui, ce genre d'action projetée internationale à grande ampleur de massacre, hein, disons le mot tout de suite, exploite nécessairement toutes les failles sécuritaires que l'État cible ou la population cible peut présenter. Vous avez mentionné la faille militaire, effectivement, la réallocation de régiments, de ressources, de l'attention des pouvoirs publics aussi vers le front ukrainien. Évidemment également aussi la réallocation des ressources des services de sécurité intérieurs et extérieurs en Russie. Donc on sait à quel point ils sont puissants, ils appartiennent à l'ADN. Et l'attention, la définition du risque en fait, du risque stratégique, du risque sécuritaire, eh bien, s'est reporté quasi exclusivement sur le front Est. Il faut bien sûr voir qu'il s'agit d'un risque qui vient d'Asie centrale manifestement, mais que à partir de la Turquie et des accords de libre-échange qui ont été de passagers en fait, hein, de touristes qui ont été faits entre la Russie et la Turquie depuis plusieurs années, apparemment, si les informations se confirment, eh bien là encore une fois, les terroristes ont utilisé les facilités laissées par par l'attention exclusive portée au front ukrainien. Les services de sécurité russes peuvent être très puissants, trop puissants vraisemblablement, mais ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omnipotents, pas plus que les services de sécurité occidentaux.
David Gauzer.
Oui.
Sur cette question justement, et en particulier sur ce dégarnissement de certaines troupes qui se situaient à l'est et qui sont reparties à l'ouest et qui peut-être ont permis à certains de ces djihadistes, mais comme le disait aussi Cyril Brett, il y a aussi les facilités de transport pour des touristes de turcophones par exemple dans l'ensemble de cette Asie centrale, et que cela a pu aider effectivement à l'organisation et à la mise en place de cet attentat de Moscou.
Oui, tout à fait. Il y a en fait deux provenances. Il y a eu un dégarnissement de la frontière du Pianch, c'était à la frontière tadjiko-afghane, avec le départ de 1500 à 2000 hommes sur le front ukrainien de la 201e DFM, division de fusiliers motorisés russe.
C'était une force de 7000 militaires en fait à cette époque-là, mais on en a enlevé 1500 à 2000, oui, voilà.
Tout à fait. Donc ça, c'est effectivement les groupes, soit directement l'organisation de l'État islamique Khorasan ou ses filiales nationales ou oasiennes. Je pense à Ansarullah, mouvement islamiste d'Ouzbékistan. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir sur ça. On sentit qu'il y avait un signal d'affaiblissement et qu'elle pouvait compter sur des cellules dormantes au Tadjikistan même. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'il faut aussi voir, effectivement, comme ça a été souligné, par rapport au réseau de l'émigration. Et c'est vrai que les Tadjiks, comme les Ouzbeks, à la base, quand ils sont dans leur village avant de partir en émigration, ils sont encore dans les liens de solidarité, les liens de mahalla, qui sont à la fois des réseaux complexes de proximité, mais aussi de surveillance. Et c'est rarement là qu'ils peuvent se radicaliser. Mais lorsqu'ils sont coupés de leurs racines et qu'ils se retrouvent sur des terres étrangères, surtout en Russie, mais on a pu le voir aussi à Istanbul lors d'attentats précédents ou encore en Occident, souvent, pas toujours loin de là, mais assez fréquemment, ces réseaux se reconstituent autour des mosquées et de mosquées notamment radicales. Et donc là, c'est ce qui explique qu'à Moscou, notamment les quatre terroristes qui ont été montrés, on a vu sur 3 documents d'entre eux montrés par les services russes qu'ils étaient de Khatlon, c'est-à-dire du sud du Tadjikistan. Et donc on voit quand même qu'il y a une solidarité clanique qui est claire au départ dans ce cas-là.
Oui, il faut tout de même se méfier, effectivement, parce que les services russes n'ont peut-être pas mis la main sur la totalité de ceux qui ont accompli ces actes. Et puis que, par ailleurs, effectivement, il y a peut-être des failles, justement, dans cette sécurité russe aujourd'hui. Bayram Balchi, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est peut-être d'expliquer brièvement, je ne vais pas vous demander de résumer ce très bon livre que vous avez publié en 2017, qui s'appelle « Renouveau de l'islam en Asie centrale et dans le Caucase », qui explique l'évolution, justement, de l'islam depuis la création de l'URSS et puis ensuite avec la chute de l'URSS et la création de ces républiques d'Asie centrale en 200 et quelques pages. C'est difficile de le résumer en quelques minutes, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment on est passé de ce contrôle centralisé par les républiques d'Union soviétique et par Moscou sous l'URSS de ces religions qui ne devaient pas trop bouger d'une certaine manière à la création de ces États d'Asie centrale qui sont musulmans laïcisés, on disait tout à l'heure, et au fait qu'ils sont, pour certains d'entre eux, bousculés, comme le Tadjikistan, par des mouvements beaucoup plus radicaux dont on va parler.
En fait, effectivement, quand on regarde, en fait, depuis, ça fait presque 30 ans que ces États sont indépendants, depuis qu'ils sont indépendants avec la fin de l'Union soviétique, honnêtement, je dirais que tous ces États, les 5 pays d'Asie centrale, ils ont quand même une bonne politique de gestion de faits religieux. Dans le sens où il y a
Il faut rappeler l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et le Turkménistan.
Et le Turkménistan. C'est-à-dire que dès qu'ils deviennent indépendants, ils considèrent que, contrairement à la période soviétique, l'islam fait partie de notre héritage. On va essayer de faire avec, de cultiver une certaine intégration de l'islam dans l'identité de l'État et de la population et de la société. Et je dirais qu'il y a une politique de gestion du religieux qui est assez intéressante, dans le sens où, eh bien, il y a un contrôle, mais pas non plus complètement obsessionnel, du religieux. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation de l'éducation, du contrôle des mosquées. Mais malgré cela, je pense que il y a quand même un développement d'un islam radical. Alors, certains diront que c'est à cause de la politique excessivement autoritaire de ces régimes. Oui et non, mais on a vu aussi dans des pays d'Asie centrale où franchement il n'y a pas une politique répressive, mais il y a quand même un phénomène djihadiste assez important. Je dirais même qu'il y a des pays qui ne sont pas forcément musulmans où il y a quand même une radicalisation. Ça c'est le grand mystère, les grands chercheurs n'arrivent pas à expliquer comment cette passion, cette fascination pour la violence, pour le passage à l'extrême. Alors bien évidemment, il y a aussi probablement des raisons à la fois économiques, de misère, de marginalisation, de gens qui ont recours à cela, mais pas que. Et je pense que la proximité de des États décentrés de l'Afghanistan fait que c'est difficile. L'Afghanistan, c'est quand même, depuis des décennies, voire des siècles, il n'y a aucun pouvoir qui arrive à le maîtriser.
Bien sûr.
Tout le monde s'est cassé la figure et ça continue.
Avec, par ailleurs, des actions extérieures, je disais, l'islam mondialisé pénètre effectivement dans ces républiques d'Asie centrale. Et quand on parle d'islam mondialisé, on pense généralement aux pays du Golfe, mais pas simplement. Et c'est peut-être pas ceux qui sont les plus actifs, mais aussi à la Turquie, qui a des actions dans la région. Et puis, avec la création de l'État islamique déchu ensuite en Syrie et en Irak, eh bien, il y avait aussi cette idée que, eh bien, il y a la possibilité de créer un califat. Et ce califat, c'est ce califat revendiqué du Khorasan.
Tout à fait. Mais en fait, depuis qu'ils sont indépendants, ces États se retrouvent à gérer des flux religieux islamiques qui viennent de différents pays, qui sont des régions qui sont, je dirais, naturelles pour les pays d'Asie centrale. C'est-à-dire que historiquement, l'Asie centrale est liée à plusieurs grands pays, plusieurs empires, plusieurs aires culturelles islamiques. Ils reçoivent des influences iraniennes, des influences de Turquie, des États du Golfe. Une autre influence qu'on a tendance à oublier, mais qui est très importante pour les centrales, c'est l'Inde, c'est le Sud.
Bien sûr.
Parce que historiquement, l'Inde était une puissance musulmane.
Il y
avait l'Empire moghol qui est originaire de Samarcande, de l'Asie centrale. Et si vous voulez, je pense que...
Y compris des relations avec l'Indonésie.
Avec l'Indonésie, etc. Et je dirais que le renouveau de l'islam en Asie centrale dans ces 5 républiques, il s'est fait d'abord avec avec une ressource intérieure, c'est une dynamique locale intérieure, parce que il y a une demande de la part de la société, mais il y a aussi des influences qui viennent de l'extérieur. Or, maintenant, pour ce qui est de l'État islamique, ça c'est autre chose, c'est le fait que l'Afghanistan a été envahi par l'Union soviétique, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis. Ensuite, et je pense que pour ce qui est de l'État islamique, en tout cas pour l'organisation qui a revendiqué l'attentat de Moscou, ça c'est un phénomène. Il y a une question fondamentale, c'est de faire la connexion. Il y a une connexion entre le radicalisme en Asie centrale et au Moyen-Orient. Mmh. Parce que qui dit État islamique qui était à cheval sur la Syrie et l'Irak. Mmh. Et c'est surtout à partir de là, en fait, qu'il y a une espèce de difficulté, une difficulté à contrôler ce phénomène-là. Et il y a aussi, je pense qu'on va revenir là-dessus, c'est la politique de la Russie. Comment s'est comporté en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Tchétchénie.
Ouais, on va y revenir.
C'est cela qu'il faudrait probablement avoir à l'esprit pour mieux comprendre ce qui s'est passé à Moscou.
Parce que, dites-vous, Cyril Brett, dans des entretiens que vous avez donnés très récemment après l'annonce de cet attentat, on a toujours tendance à penser que l'État islamique a pour objet ou pour ennemi les démocraties ouvertes que dans lesquelles nous vivons, mais les États totalitaires, dites-vous, les régimes totalitaires ne sont pas, ou autoritaires, ne sont pas non plus des grands amis de cet islam radical. Et il faut toujours avoir cela en tête quand on réfléchit à ces actions qui ont été menées à Moscou.
Oui, tout à fait. Le risque islamiste, ça vient d'être rappelé, pèse sur la Russie depuis très longtemps, depuis l'intérieur, c'est-à-dire les républiques autonomes de l'intérieur de la Fédération de Russie, Tchétchénie, Daghestan, Ingouchie, où les causes nationalistes et les causes islamistes ont convergé depuis les deux guerres de Tchétchénie durant les années 90. Et puis l'État islamique a tout simplement une revanche à prendre sur la Russie. Depuis l'intervention militaire russe en soutien au régime de Bachar el-Assad en Syrie, et pour défaire militairement l'État islamique, la Russie n'a pas défait à elle seule l'État islamique sur le plan militaire au Moyen-Orient, mais elle y a fortement contribué. Et donc ce que fait l'État islamique aujourd'hui, en profitant, disons, de la distraction ukrainienne, si on peut dire ça comme ça, c'est de prendre sa
La distraction des Russes qui sont tournés vers l'Ukraine, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement. Mmh. Voilà, par la diversion de l'attention stratégique des pouvoirs russes vers le front ukrainien, de prendre une certaine revanche, en exploitant, ça a été extrêmement bien dit par David Gahuzet, en exploitant les communautés immigrées musulmanes d'Asie centrale, mais qui ne sont pas nativement ou principalement salafistes ou radicalisés, c'est un islam qui est différent historiquement, pour frapper au cœur d'un régime autoritaire dont on sait qu'il accorde une très grande importance aux services de sécurité. Mmh. C'est une revanche.
Et on peut dire aussi, alors, si on avance dans cette discussion, dans les rapports qu'il peut y avoir entre Moscou, ces républiques d'Asie centrale et ces groupes islamistes radicaux de ces régions d'Asie centrale, on peut dire, David Gahuzer, qu'il y a aussi une autre dimension, une sorte de front premier, vous dites les uns et les autres, eh bien, s'attaquer à la Russie qui est responsable d'actions à la fois en Tchétchénie, en Afghanistan, mais aussi évidemment par son soutien à Bachar el-Assad en Syrie. Et de l'autre côté aussi, peut-être tenter de faire tomber une de ces républiques qui est plus fragile que les autres, peut-être le Tadjikistan de M. Emomali Rahmon, qui est soutenu avec beaucoup d'intensité par la Russie, mais qui semble plus fragile que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, David Gahuzer ?
Oui, les deux actions peuvent être concomitantes. Déjà, l'État... L'organisation État islamique Khorasan est une vilaya, c'est-à-dire une unité aussi bien fonctionnelle que géographique de l'État islamique. Et les Tadjiks ont toujours eu une position particulière, alors que dans la plupart des vilayas, chaque katiba agissait pour sa vilaya, les Tadjiks étaient directement rattachés du temps de Daesh en Syrie au groupe central.
Parce qu'ils ont été combattants, ces Tadjiks ont été combattants de l'État islamique en Syrie.
Oui, tout à fait. Ils étaient même dans la garde prétorienne d'Omar al-Baghdadi. Et le dernier ministre de la guerre de Daesh, c'était Gulmorod Khalimov, qui était un ancien des forces spéciales des aumônes du Tadjikistan. Donc, effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont commis l'attentat à Moscou se sont revendiqués directement de l'OIEK, de l'organisation État islamique Khorasan, ce qui voulait dire qu'ils voulaient sûrement donner une portée, je veux dire, une image mondiale au-delà que locale, parce que sinon, ils auraient plutôt mis en avant les filiales. Les filiales, je pense par exemple pour le Tadjikistan à Ansarullah, pour le Kazakhstan, il y aurait le Jundal Khalifat, le Jaishul Mardi pour le Kyrgyzstan. Les filiales qui sont souvent sur des critères nationaux ou pour l'Ouzbékistan oasien, c'est-à-dire sur des oasis, donc là on a une filiale différente par oasis, elles s'attaquent plutôt à leur état, à l'état national, à l'état national visé. Le but est le même, hein, c'est de soit par l'OIK, ils font le but. Donc là, c'est de faire tomber une zone. Le but est de parvenir au califat mondial. Soit on y va directement par l'OIK, soit on passe par
État. Par l'État islamique au Khorasan, oui. On comprend bien ce que vous dites, David Gauzer. 18h41 sur France Culture. Nous posons cette question. Quelle place pour l'islam, l'islamisme en Russie et en Asie centrale avec ces républiques d'Asie centrale? Un de nos trois invités, David Gauzer, qui est géographe. Bayram Balchi, qui est chercheur au CERI Sciences Po. Et Cyril Brett, qui est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
C'est difficile de faire des suppositions. Mais ce qui est sûr, c'est que si la Russie n'était pas intervenue, l'État islamique aurait pris l'avantage. Et il est même possible qu'il se serait développé dans toute la Syrie, et peut-être même jusqu'en Irak. Avant que l'opération russe ne commence, personne ne luttait vraiment contre l'État islamique. On pouvait s'en rendre compte, malgré les faibles opérations militaires des États-Unis contre Daesh, et cela juste avant l'intervention russe en Syrie.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre Dmitri Polianski, qui était ambassadeur adjoint pour la Russie à l'ONU à New York. Et c'était à propos, évidemment, de la présence de la Russie en Syrie, donc de la Russie en Syrie et de l'État islamique en Syrie. Avant que la Russie ne s'engage, personne ne luttait contre l'État islamique, disait-il, en minimisant évidemment le rôle des Occidentaux, en particulier des Américains. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des raisons pour lesquelles on peut frapper la Russie aujourd'hui, Bayram Balchi?
Alors, je pense que les propos de cet ambassadeur ne sont pas tout à fait exacts. Effectivement, il y a le mythe que la Russie est intervenue pour combattre Daesh, mais je pense que la politique de la Russie était beaucoup plus perverse que cela, dans le sens où elle est intervenue avant tout pour sauver Bachar. Et je dirais même qu'au départ, si vous vous souvenez, maintenant c'était malheureusement il y a plus de 10 ans, parce que le temps passe vite, les premières interventions militaires de la Russie en Syrie, c'était surtout contre des rebelles modérés, qui n'étaient pas du tout radicaux, qui n'étaient pas du tout islamistes, qui étaient même fréquentables pour nous occidentaux. Or, c'était les Français qui étaient les mieux placés pour faire tomber Bachar. Et justement, pour sauver son copain Bachar, Poutine a bombardé ses rebelles modérés. Et indirectement, cela a renforcé Daesh. Ensuite, ils sont revenus. Quelque part, ils ont aidé Bachar, les Russes, en aidant des Bachar, à avoir une sorte de prophétie autoréalisatrice. Parce que depuis le début, Bachar indiquait constamment qu'il fait sur des islamistes, alors que la révolution syrienne ne l'était pas du tout. Mais malheureusement, le fait que les modérés ont été éliminés par la Russie et par Bachar, ça a renforcé les djihadistes, et ensuite ça a donné l'État islamique, et que maintenant la Russie se retrouve quelque part obligée de combattre, mais quelque part elle est aussi responsable du développement de Daesh, qui maintenant frappe Moscou.
Cyril Brett, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Bayram Balchi, et en particulier dans ce rôle central que peut jouer dans la mémoire des djihadistes de l'État islamique au Khorasan, qui ont revendiqué cet attentat proche de Moscou vendredi dernier? Cette mémoire peut être une des raisons de cette attaque.
Oui, évidemment, le rôle revendiqué par la Russie, l'action militaire en soutien au régime de Bachar el-Assad et la rhétorique de discréditer tous les mouvements de contestation des régimes amis de Moscou est un axe fondamental de la politique étrangère russe. J'ajouterais à ce que dit Rambalchi, le fait que c'est exactement cet argument qui est utilisé de façon officieuse pour le déploiement de troupes de mercenaires en Afrique, c'est-à-dire que au Mali, au Burkina Faso et en Afrique et en République centrafricaine, les Russes mettent en évidence le ressentiment français, anti-français, et mettent également leur capacité à assurer la sécurité des cités, des villes, des gouvernements, des administrations publiques contre les groupes djihadistes qui, eux, n'ont pas grand-chose à voir, sauf affiliation ex poste avec Daesh et avec l'État islamique. Il faut bien voir qu'on a affaire ici à un antagonisme revendiqué par la Russie qui, au moins depuis les années 2000 et la guerre menée contre le terrorisme international, se revendique comme un des pionniers, comme une avant-garde de la lutte contre le sunnisme radical et contre l'islamisme international, aussi bien d'Al-Qaïda que de Daesh.
Et cela, les sunnites radicaux, comme vous le dites, ne l'oublient pas, évidemment, alors que peut-être nous, on a fini par un peu oublier cette question-là, David Gauzer, et ne plus voir en Vladimir Poutine que celui qui combattait en Ukraine.
Oui, tout à fait. En fait, il y a, c'est vrai que depuis la fin de l'Inquisition et même on va dire de la conquête de l'Amérique, il n'y a plus de mission il y en a eu un petit peu en Afrique noire à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, une sorte d'évangélisation
Ah bah tout de même, il n'y en a pas eu un petit peu, il y en a eu beaucoup tout de même. Enfin, vous minimisez ce rôle-là tout de même, mais continuez.
Mais ce sentiment quand même aujourd'hui n'est plus est très affaibli dans les civilisations on va dire occidentales. Alors que dans le monde musulman, même si les islamistes sont bien sûr ultra minoritaires, ils sont quand même là, ils sont quand même développés. Il y a cette idée d'une visée messianique d'imposer leur ordre, leur califat par le combat. Après, je voudrais rajouter juste un point quand même par rapport à Vladimir Poutine, c'est que effectivement, les démocraties occidentales sont confrontées à l'islamisme, mais il ne faut pas oublier que les États autoritaires, la Russie, mais aussi la Chine, le sont, et que là-dessus, il y a une convergence de vues. Déjà dans les...
D'ailleurs, il y a d'ailleurs l'organisation de coopération de Shanghai qui unit la Russie et la Chine autour de la possibilité de fournir des moyens de contrôle, de surveillance et des formations et de renseignements contre justement ces mouvements islamistes.
Il y a même une convergence sur cette question-là, et je dirais uniquement sur cette question-là, des services de renseignement occidentaux et russes. Qui coopère.
Oui, Bayram Balchi, tout de même, cette dimension est intéressante parce qu'on se dit, il y a aussi la possibilité ou le risque, effectivement, et c'est ce que disait tout à l'heure David Gauzer, de voir ces États donc nouveaux, vous avez dit, ils ont 30 ans, ces États d'Asie centrale, qui sont, on l'a dit, musulmans laïcisés, tombés comme une théorie des dominos, certes pour certains d'entre eux, dans l'escarcelle de mouvements islamistes beaucoup plus radicaux.
Alors, avant de répondre à cette question, j'apporterai une petite remarque supplémentaire par rapport à ce qu'il y a au lien entre la Russie et l'État islamique. Je pense que le fait que l'État islamique ait frappé à Moscou, ce n'est pas que parce que c'est la Russie. Pour eux, c'est aussi une façon de se faire remarquer. Et de gagner une certaine crédibilité vis-à-vis des autres organisations djihadistes et de recruter, parce que c'est aussi leur force. Dès qu'ils trouvent une faille, là, ils l'ont trouvée à Moscou, mais ils auraient pu la trouver ailleurs. Et de ce fait-là, je pense que c'est surtout pour eux une façon de se faire remarquer, de gagner des points par rapport à d'autres mouvances, y compris par rapport aux talibans, parce que n'oubliez pas qu'ils sont aussi en guerre contre les talibans. Et il faut même, je dirais, remercier les talibans qui leur mènent une guerre féroce. Ils leur font vraiment très mal, parce que avant l'arrivée des talibans au pouvoir, il y avait un ancrage territorial de l'État islamique qu'ils n'ont plus. Voilà. Ça, c'est. Mais pour ce qui est de répondre à votre question, est-ce qu'il y a un risque qu'un des États, des cinq d'Asie centrale, tombe dans un système islamiste? Franchement,
vous n'y croyez pas.
Je ne crois pas. On est très loin parce que vous avez comme des sociétés qui sont très sécularisées, une tradition étatique très, de plus en plus forte.
Sécularisée parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, trois générations sont passées sous l'Union soviétique avec une...
Même avant, c'est-à-dire que vous avez un mouvement de modernisation avec les Russes depuis le 19e siècle.
Oui, y compris d'ailleurs sous les tsars.
Y compris sous les tsars. C'est-à-dire qu'une bonne partie des élites ont été formées pendant cette période-là, dans un esprit tout à fait occidental. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un risque islamiste de... Mais, par contre, une possibilité pour ces régimes d'être déstabilisés, mais en difficulté, ça c'est déjà arrivé, ça a déjà été bloqué il y a quelques années. Et je dirais que la priorité de l'État islamique, en fait, c'est aussi une façon pour eux de passer par ces États-là, pour aller surtout en Russie, et ça a été dit au début de l'émission, le lien migratoire très fort entre les sociétés décentrées et la Russie leur facilite la tâche, parce que vous avez... probablement 3 millions, 4 millions d'originaires d'Asie centrale qui vont travailler en Russie, parce qu'il y a des travaux que les Russes ne font pas. Et de ce fait, il leur est facile, ils arrivent en Russie, ils sont complètement isolés. Et le recrutement se fait surtout sur le réseau, sur le net. Et ça, c'est un phénomène qui est très difficile à surveiller. Et je pense que là, le fait qu'il y ait encore une instabilité en Afghanistan va encore, malheureusement, contribuer à ce phénomène-là.
Cyril Brett.
Oui, tout à fait. L'Asie centrale est une zone de vulnérabilité pour la Russie. Elle l'est parce que la Russie s'est construite à la fois, l'État russe s'est construit à la fois en symbiose et en opposition au royaume musulman. Vous avez évoqué l'URSS. Il faut évoquer évidemment le 19e siècle qui a été un siècle de conquête et de russification et le ressentiment, malgré la laïcisation de ces populations, le ressentiment des populations qui étaient celles des marges, en fait, de l'URSS, existe toujours. Donc on voit qu'à la convergence de la politique étrangère russe, la convergence du ressentiment des populations locales contre l'ancien colonisateur, le ressentiment également de certaines couches de la population contre les régimes autoritaires de l'Asie, l'influence et la compétition très importante que Bazem Baltchi a raison de souligner entre les islamistes. On voit l'État islamique, l'organisation État islamique, qui avec ce massacre à grande ampleur a repris date, repris pied dans le terrorisme international et dans les grandes capitales de la mondialisation.
Parce qu'il y a la question tout de même,
retour en force.
Il y a effectivement la question de la réputation de ces groupes. On sait très bien que toute période où le terrorisme se développe, et cela a été vrai, y compris en Europe occidentale, lorsque ces années de plomb ont eu lieu, fait qu'il y a des concurrences de groupes, la volonté des groupes de se faire remarquer, et comme le disait Bayram Balchi, effectivement, la question de la réputation d'un groupe peut servir à enrôler de nouvelles recrues. Et ça peut être le cas aussi, Cyril Brett, à cette occasion-là.
Oui, il y a une compétition pour les ressources. Le recrutement, vous avez raison. Les ressources également, les ressources financières, il y a une compétition. Une compétition également sur la visibilité, hein, sur l'attractivité, avec un système de franchise qui s'étend aussi dans la bande sahélo-sahélienne et où l'État islamique est en compétition avec d'autres franchises. Et le but du terrorisme n'est pas forcément... Enfin, le but explicite du terrorisme, c'est d'établir un califat, mais le premier but, le but tactique, le but stratégique, c'est de capter ses ressources, de capter l'attention, et pour l'État islamique, depuis le début, d'essayer de s'ériger en contre-État, en opposition avec les États traditionnels d'Occident et de Russie, de Chine et d'Asie centrale.
David Gauzer, dans un contexte où le combat que mène l'État islamique en Afghanistan contre les talibans, disons, n'est pas en passe d'être gagné, parce que visiblement, il a subi quelques revers récents, et ça n'est pas justement ces revers qui font que l'État islamique peut progresser dans cette région momentanément, en tous les cas.
Oui, alors juste, effectivement, avec une exception quand même, le Tadjikistan. Le Tadjikistan est très particulier. Alors, bien sûr, le Kyrgyzstan est un pays pauvre qui pourrait connaître des formes de déstabilisation, mais sans tomber pour autant dans l'islamisme, du fait de la longue sécularisation qu'a très bien évoqué Bayram, et qui s'applique à l'ensemble des républiques. Mais je nuancerai cela sur le Tadjikistan, puisque le Tadjikistan a connu donc une guerre civile avec un islamisme assez fort.
Entre 92 et 97, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et après... toute l'opposition démocratique a été complètement laminée Et l'Armon a une base, le président Tadjik a une base de plus en plus étroite de soutien. Il est même contesté dans son propre clan. Et on voit qu'il est tenu à bout de bras par la Russie. Et si la Russie est affaiblie, son régime pourrait vaciller.
Mais là, par rapport à l'Afghanistan, néanmoins, on peut dire, d'après ce que j'ai cru lire, que effectivement, l'État islamique au Khorasan, qui avait vraiment maille à partir avec les talibans, n'a pas, dans les derniers temps, véritablement gagné.
Non, parce que les talibans, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir à Kaboul, ont liquidé leurs anciens alliés qui contrôlaient les régions du nord, les alliés tadjikophones et autres du nord de l'Afghanistan, non pashtouns, et ils ont, à la fin de l'année 2021 déjà, pashtounisé tous les cadres dirigeants des provinces du nord de l'Afghanistan.
Bayran Bachi.
Oui, effectivement, je pense que l'attentat de Moscou montre à quel point, justement, l'État islamique de Khorasan n'a plus de possibilité d'agir réellement en Afghanistan, donc quelque part, il se transforme en mouvance terroriste et qui peut agir partout où il peut. Et quelque part, c'est aussi le signe que, quelque part, en Afghanistan, il n'a plus aucun avenir.
Est-ce que ça veut dire, enfin, c'est difficile d'imaginer que l'avenir pour un mouvement de ce type est totalement bouché, mais est-ce qu'on peut dire en revanche que ça nécessitera désormais du pouvoir russe et de Vladimir Poutine un intérêt plus soutenu encore, Bayram Balchi, qui n'en avait pour ces régions?
Mais je pense que pour Poutine, le drame pour Poutine, il ne le comprend pas, c'est qu'en fait, depuis qu'il est obsédé par la question ukrainienne, il est en train de tout perdre. C'est-à-dire que il perd sa crédibilité, son image, son influence dans le Caucase et en Asie centrale. Et ne serait-ce que pour prendre la question du Karabakh. La question du Karabakh, autrefois, c'était la Russie qui décidait tout. Or, c'est plus le cas. Le Karabakh a été perdu parce que la Russie était tellement occupée par la guerre qu'elle mène en Ukraine.
Que la Turquie a poussé ses pions.
Que la Turquie a poussé ses pions. Et je pense que quelque part en Asie centrale, ce qui va se passer, c'est la même chose. C'est qu'en fait, toute l'image de la Russie est dégradée en Asie centrale. Son projet de création d'une union économique eurasiatique pour intégrer toutes les républiques de l'ex-URSS, notamment en Asie centrale, ça ne marche pas. Économiquement, c'est la Chine qui s'implante. Politiquement, de plus en plus, ce sont les autres pays. Et je pense qu'à ce niveau-là, à force de continuer de gagner, soi-disant, l'Ukraine, il perd tout son ancien empire et toute l'influence qu'il avait dans la région de l'ex-URSS.
Cyril Brett, est-ce que vous êtes d'accord avec cette prophétie de Bayram Balchi?
Écoutez, les facultés de résilience de ce régime sont parfois un peu surprenantes. Donc,
mais de tous les régimes, d'ailleurs, généralement.
Naturellement. ce qui est certain, c'est qu'en Ukraine, la Russie a obtenu exactement le contraire de ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle voulait elle voulait se garantir contre l'extension de l'OTAN, et elle a fait en sorte que l'Ukraine bascule définitivement du côté de l'Union européenne et du côté de l'OTAN. Donc il y a effectivement une hétérotélie, obtenir exactement le contraire de ce qu'on cherche, qui est en train de...
J'apprends ce mot grâce à vous. Hétérotélie, merci, je ne le connaissais pas. Merci à vous, Cyril Brett, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de 10 attentats qui ont changé le monde. Comprendre le terrorisme au 21e siècle, qui vient d'être publié en poche en janvier dernier chez Duno. Merci à David Gauzer, géographe spécialiste du terrorisme en Asie centrale, chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement et président du Centre d'observation des sociétés d'Asie centrale. Vous êtes co-auteur avec Johan Dominé du Chaudron vert de l'islam chez l'Armatan en 2000. Et Bayram Balchi, on aura tout intérêt à vous lire pour mieux comprendre ces républiques et la place que l'islam y tient. Renouveau de l'islam en Asie centrale et dans le Caucase, c'était en 2017 chez CNRS Éditions. Vous êtes chercheur au CERI Sciences Po et vous travaillez sur ces questions depuis longtemps dans cette institution. Merci à tous les trois. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Fanny Richet, Candice Bergeron, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malondin, avec à la technique Jean-Guy Lamège.